Vous écoutez RTL.
Les curieux sont là, heureusement, et tant mieux, jusqu'à 15h. Thomas Sidonie,
ça va ? Bonjour, salut Stéphane. On est tous marseillais aujourd'hui, en attendant de suivre la finale de l'Europa League. Ce soir, en direct sur RTL, on va découvrir l'histoire de la ville de Marseille. Elle est née de l'amour, de l'immigration, de la pêche, du plaisir de vivre et de causer. Ce sera vers 14h30 dans la curiosité.
Et puis tout de suite, l'histoire du plus grand joueur de tennis de tous les temps, rien que ça.
La curiosité est un vilain défaut.
J'aimerais encore jouer très longtemps, le plus longtemps que possible. Alors ça, c'est pour moi un très grand objectif.
RTL.
J'ai pas perdu la motivation, rien, juste parce que j'ai eu du succès. C'est quelque chose pour moi qui est normal en fait de continuer et d'avoir du plaisir.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bonjour à tous, Roger Federer au menu de notre curiosité. C'est un grand destin comme on les aime sur RTL, un personnage hors norme. On va vous raconter son histoire avec notre invité Thomas Soto et avec Sidonie Bonnec. Ça va bien ?
Ça va très bien Thomas, Thomas Hugues. Salut oui, les curieux, c'est parti, c'est l'autre. Pour une heure de découverte, de gai savoir. Ici vous le savez, on adore se cultiver dans la bonne humeur.
Salut Thomas Soto.
Bonsoir, bonjour Thomas Hugues.
Bonsoir, bonjour, bonne nuit Thomas.
Je suis troublé, j'ai entendu Roger. C'était bien de commencer avec lui, c'est un peu court le son. On pourrait l'entendre un peu plus longtemps, l'entendre. Roger.
Vous êtes le fan absolu de total, Roger Federer, c'est ça, total, depuis longtemps.
L'avocat commis d'office. ça fait des années, ça fait depuis que une quinzaine d'années, quand je commençais à le voir jouer. Je ne le jugeais pas à l'époque sur sa coupe de cheveux ou sur son look, parce qu'il a fait beaucoup de progrès depuis. Mais,
capillaire.
Il m'a d'abord séduit par le jeu, et puis après j'ai été séduit par
le bonhomme. Parce qu'il a un jeu comment ?
Il a un jeu élégant, il a un jeu de chat. On a l'impression que quand il a fini un match, même en 5-7, il est parfaitement peigné, parfumé, coiffé. Enfin, il est l'élégance, voilà.
C'est vrai.
Et en plus,
c'est
l'élégance qui réussit, qui score, qui met la balle exactement là où il faut la mettre.
Je vous suis sur le réseau social Twitter depuis pas mal de temps.
Je vous plains.
Oui, parce que c'est pas toujours drôle, mais bon, si, c'est souvent très drôle et informatif. Et il y a, je crois, 2 ou 3 ans, vous aviez lancé une espèce de campagne pour pouvoir interviewer Roger Federer. Vous étiez dans la Maison Bleue à l'époque. Vous avez réussi à l'interviewer. Parfois, on est un peu déçu par ses idoles quand on les en rencontre. Et lui ?
Eh ben lui, ça n'a pas été le cas. Et en fait, j'ai eu la chance. Alors, c'était très long. Hein. Je raconte dans le bouquin, il y a eu une pétition. J'ai demandé à des personnalités de faire des petits messages qui m'étaient adressés. Woody Allen, Joe Starr, François Hollande, qui était chef d'État, qui était venu un matin dans la matinale de la Maison Bleue. Ouais. Et je l'avais chopé. Donc, quand j'ai juste 2 secondes, vous enregistrez un petit message pour Roger Federer. Et il l'avait fait. Ouais. Et finalement, j'avais réussi à le coincer dans un restaurant près d'Europe. Et je lui ai dit, bon, il faut qu'on la fasse, cette interview. Roger m'a dit, oui, vraiment, ça me fait marrer. Toi, t'es dingue.
Il aime parler de son métier, Roger. Roger Federer ?
Il aime parler, mais il n'aime pas se livrer, Roger Federer. Donc, c'est un garçon qui est extrêmement aimable, qui sait vous donner l'impression que vous êtes intéressant pour lui, mais il ne se livre pas. C'est un garçon très secret. Alors, sur tout ce qui est tennis, il va y aller. Et sur tout ce qui est vie perso, tout ce qui est enfance, etc. Mmh. Ce sont ses amis qui en parlent le mieux.
Et c'est ce qui vous a permis d'écrire et de sortir ce livre, Une aventure nommée Federer, aux éditions du Rocher. Pour ceux qui connaissent rien au tennis, il faut peut-être poser quand même un peu l'immensité du champion. Je disais,
on va parler de sa taille, vous croyez ?
Le plus grand joueur, merci Sidonie, de tennis de tous les temps. Je sais que vous êtes intéressé par la taille. Le plus grand joueur de tennis de tous les temps.
Palmarès aussi qui m'intéresse.
C'est quoi son palmarès ?
Ah bah son palmarès c'est le plus grand. Il a 97 tournois remportés. Il a 20 grands chelems évidemment, sans compter Wimbledon qui vient au mois de juillet. Et je compte bien sur lui pour le mettre aussi dans sa besace. Il est numéro 1 mondial parce que quand il a su que le bouquin sortait aujourd'hui, il s'est dit je vais redevenir numéro 1 mondial. Et le système du tennis fait que en ce moment il joue pas, mais Nadal joue et a perdu un match alors qu'il avait gagné le tournoi l'année précédente. Donc Roger est repassé devant. Donc il est numéro 1 mondial à presque 37 ans.
Et il a une longévité assez surprenante dans le monde du tennis.
Pour le moins. Parce que c'est simple, c'est le plus vieux numéro 1 mondial en exercice. D'ailleurs, tout ça dit des choses de sa personnalité. Il a fait un tout petit tournoi au début janvier, il lui manquait 150 points pour être au classement, pour repasser numéro 1 mondial et devenir le plus ancien numéro 1 mondial de tous les temps, en devançant André Agassi. Et il est allé faire ce tournoi de rien, et il a gagné ce tournoi de rien, et il est devenu numéro 1 mondial.
Alors grâce à vous Thomas Soto, on va dévoiler les secrets de Federer, entrer dans les coulisses de la fabrication de ce champion. Il est né déjà le 8 août 1981 à Bâle, en Suisse. Dans quel milieu social il apparaît ?
Un milieu modeste, normal, sans excès. C'est pas une riche famille d'horlogers suisses, pas du tout. C'est un
sportif ?
Non, pas particulièrement. Un papa qui était petit entrepreneur, qui travaillait dans un labo pharmaceutique à l'époque et qui est devenu petit entrepreneur. Sa maman, Linette, travaillait aussi pour ce laboratoire pharmaceutique, mais en Afrique du Sud. Donc les deux se sont rencontrés là-bas, Robert et Linette, en Afrique du Sud à l'époque. Et c'est de cette rencontre qu'est né Roger. Et
des parents... Est-ce qu'il est tout de suite fan de tennis, Federer?
Il est tout de suite fan de tennis. Ouais. Il y a deux choses importantes. Il est très attaché à sa famille. La famille, c'est très important pour lui. Ouais. Barami a une formule qui est très jolie.
Mansour Barami.
Ouais. Il dit il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Il y a toujours eu beaucoup d'amour dans cette famille et ça a compté dans la jeunesse de Roger, notamment quand il sait qu'il veut devenir un champion de tennis, qu'il va à Écublin, qui est ce qu'on appelle le Swiss Tennis, qui est l'organe où les jeunes espoirs s'entraînent et on fait pousser tous ces jeunes-là. Et ses parents lui manquent beaucoup à ce moment-là et c'est un moment difficile. Voilà. Donc il a du mal à s'y faire, il a du mal à être loin de la maison, il est un peu malheureux à ce moment-là, Roger. Mais il sait déjà qu'il veut être numéro 1 mondial.
Mansour Barami, un joueur de tennis d'origine iranienne, si je ne me trompe, qui est un très bon joueur de double, maintenant plutôt dans le circuit des seniors, des anciens. Roger Federer, vous nous l'avez dit, aujourd'hui c'est le vrai faux gendre idéal, tout est lisse, tout est parfait. Pourtant, imaginez, quand il était gamin, c'était... Non, il ne l'est pas, on va le dire, et surtout quand il était gamin, c'était un colérique sur le terrain, il a pété des raquettes. On vous raconte ça dans un instant sur RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. RTL.
J'aurais jamais pensé d'avoir autant de succès. D'accord, on pouvait peut-être imaginer qu'un jour je serais peut-être prêt de peut-être gagner un grand chelem. Ok.
La curiosité est un vilain défaut.
Pas 17, pas des médailles d'or, des médailles d'argent, des choses comme ça. C'est quand même tellement spécial et monstrueux que je me réjouis.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Archie RTL et Roger Federer, champion de tennis, étonné d'avoir du succès. Ça fait peut-être partie de l'étoffe du champion. Thomas Soto, vous êtes journaliste sur France 2 et président officieux du fan club de Roger Federer.
Ce qu'elle allait dire.
On vous a eu. Il est humble, Roger Federer? Ou c'est un faux humble?
Quand on fait une carrière comme ça et qu'on poursuit des objectifs comme ça, on a forcément un ego qui est un peu surdimensionné par rapport à. Il a toujours voulu être le meilleur. Et là, quand je l'entendais dire oui, j'aurais jamais pensé une chose comme ça, mais si, ça l'obsédait, ça l'obsède toujours. Et aujourd'hui, ce qui l'obsède toujours, c'est de mettre une distance suffisamment grande par rapport à Nadal pour qu'il ne puisse pas être rattrapé. Il veut rester le plus grand. Donc, mais ça, c'est nécessaire pour un champion d'avoir ces ambitions-là.
Mais souvent, quand on voit jouer Federer, ça semble facile, évident, tellement c'est fluide.
Vous avez essayé de jouer ou pas, vous?
Au tennis, ouais, je sais.
C'est moins facile et moins évident.
C'est beaucoup plus compliqué et laborieux. Mais pour ça, il y a du boulot. Quand vous le rencontrez pour cette interview, il y a quelques années, il est dans un creux de sa carrière, il est blessé.
Il est blessé.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il bosse, en fait.
Beaucoup disent qu'il est fini. Il s'est arrêté 6 mois parce qu'il s'est blessé. Il est à 17 victoires en Grand Chelem. Il perd systématiquement quand il arrive en finale. Et donc, il se dit, j'arrête, je me remets en état. Et moi, quand j'ai la chance d'aller le rencontrer à Bâle, donc il est dans une salle de sport, il soulève de la fonte, il est tout seul avec son sac et ses raquettes. Et il est très, très humble. Moi, je m'attendais à voir, je dis, ça va être l'enfer, il va y avoir un producer à l'américaine, je vais avoir un chronomètre. Au bout de 8 minutes, on va dire, c'est fini. Et on a passé 2h30 ou 3 heures ensemble.
Quelle chance.
Ouais, vraiment. Et là, c'est là qu'on voit. Vous me demandiez tout à l'heure si j'étais déçu et si on est déçu quand on rencontre le Père Noël en vrai. Non, j'ai pas été déçu.
On évoquait avec vous, Thomas Soto, la jeunesse, la fabrication de ce champion Roger Federer. À 11 ans, il fait déjà partie des 3 meilleurs joueurs juniors en Suisse. Mais surprise, dans le livre que vous publiez aux éditions du Rocher, une aventure nommée Federer, on découvre un jeune joueur colérique. Il pétait souvent les plombs sur le court.
Il pétait les plombs, il pétait les raquettes, Roger Federer. Il pétait les raquettes et c'était... Alors c'est marrant, là-dessus, il y a une phrase de... Parce qu'on compare du coup souvent à McEnroe quand il était jeune. Ouais. Sauf que McEnroe, il s'énervait contre l'adversaire, il s'énervait parce que...
Contre l'arbitre beaucoup.
Federer, quand il s'énervait, c'était contre lui-même. Et c'est parce qu'il n'arrivait pas à mettre... C'est une mécanique de précision et il n'arrivait pas... C'est de la frustration, en fait. Et ce qu'il raconte aussi, Federer, qui est assez drôle, c'est qu'évidemment, à l'époque, il n'avait pas toute cette fortune et son sac Wilson avec 19 raquettes dedans. Donc il disait... quand j'essayais de me contrôler, au lieu de la casser, je la lançais juste contre le grillage, comme ça, ça m'évitait d'avoir en racheté une.
Ou contre les bâches, sauf qu'une fois, il déchire une bâche toute neuve. C'est quoi sa punition ? Il est gamin, il est ado,
Dublin, au centre de tennis, et ils viennent d'installer une nouvelle bâche toute neuve autour du court, et Roger, dans un de ses moments de frustration, déchire la bâche en tapant dessus avec sa raquette. Et Paul Doroshenko, qui à l'époque le fait travailler, lui dit « t'es gentil mon coco, mais d'abord t'aimes pas te lever tôt, t'aimes pas travailler, t'es un peu feignant ». Donc à 6h du mat, il se retrouve en Suisse, en hiver, avec son bonnet sur la tête, à ramasser les petites peluches de balles, vous savez, qui restent sur les terrains synthétiques. Ouais. Mais il le faisait quand même et il rechignait pas.
Voilà. Et ça l'a changé, ça, Roger Federer ? C'était une bonne leçon pour lui ? Il sait contrôler ses colères ?
Alors, il y a un vrai mystère sur ce qui a changé vraiment le bonhomme, sur ce qui fait qu'il s'est calmé. Il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment le fait qu'il soit devenu une personnalité avec des contrats. Quand on a des annonceurs, on peut pas... Nike, pour ne pas les citer, ils vont pas avoir un mec qui fracasse les raquettes ou qui a une mauvaise image. Et puis, il y a quand même Mirka. Il y a sa femme qui est fondamentale, qui est plus que son point d'équilibre. C'est-à-dire que les deux s'équilibrent. Tout se fait ensemble. Chez les Federer.
Elle est qui quand elle le rencontre, Federer Mirka ? C'est une sportive ?
Alors, ils se rencontrent au JO de Sydney en 2000. Oui. C'est une tennis woman, et qui, modeste, qui a été 76e mondiale. Et il y a un truc qui se passe entre eux. Elle est un peu plus âgée que lui. Oui. Elle le trouve très gamin. Elle l'a déjà vu une fois jouer. Il s'est énervé. Il a pété la raquette. Donc, il a montré le mauvais côté du garçon. Et c'est là-bas qu'ils se sont embrassés la première fois à Sydney. Et puis, depuis, ils ont fait 4 enfants. 2 fois des jumeaux. Ils font rien comme les autres. À chaque fois, c'est 20 titres. C'est 2 fois des jumeaux.
C'est pour ça que vous dites, Thomas Soto, qu'il n'est pas lisse, Roger Federer. Parce qu'il y a ce volcan-là qui menace tout le temps d'entrer en éruption.
Et puis il y a aussi ses larmes qu'on voit souvent après des grands titres, après des victoires, après des défaites, ça bouillonne. Vous savez, on le voit souvent avec ce qu'il appelle son poker face lui-même. C'est-à-dire que sur le court, il montre rien, on ne sait pas. D'ailleurs, ça nous inquiète, nous, ses fans, quand on le regarde, on dit mais qu'est-ce qu'il a ? On sait qu'il a souvent joué en ayant mal au dos, Roger Federer, et qu'il l'a caché. Mais à l'intérieur, ça bouillonne et ça sort. Quand il pleure, et ça c'est Philippe Labrault qui en parle dans le bouquin, il dit « je suis époustouflé par ses pleurs, c'est pas une petite larme, ce sont des chaudes larmes qui coulent, voilà, et c'est toute cette émotion, toute cette envie, et tout cet esprit enfantin en fait qu'il a gardé. »
Alors justement, cette enfance, on va continuer d'en parler avec vous Thomas Soto. La curiosité continue sur RTL, et pour bien comprendre Federer, il faut remonter aux blessures de cette enfance. On vous les raconte juste après la pause, les curieux.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Plus de 300 semaines passées à la première place du classement mondial des joueurs de tennis. Roger Federer est une légende vivante du sport. Ce sont souvent des clichés, ça, qu'on entend, mais pour lui, ça, c'est une vérité. On peut difficilement dire autre chose. Et notre invité, Thomas Soto, est d'accord avec moi, forcément. Est-ce qu'il y a aussi des
en
records?
En fait, une belle équipe de mixte, je trouve.
Ah, joli double mixte, oui, ça va
on
pas
vous
mal.
Vous plaît bien.
Ouais.
Ah, merci.
Bon petit service volé. Moi, j'aime bien jouer l'attaque au tennis. Très revers, d'accord. On va s'arranger.
Bon, je m'en mets au fond de cours.
Est-ce qu'il bat aussi des records en matière de gains d'argent gagné dans sa carrière, Roger Federer.
Oui, il a gagné en tournoi, hein, simplement en tournoi, plus de 110 millions de dollars, je crois, de mémoire. D'accord. Et le magazine Forbes, qui avait estimé sa fortune il y a quelques années, avait estimé donc que ça représentait 30% de ses revenus. Donc il y a 70%, le reste qui vient de la pub, qui vient des contrats à côté,
des sponsors,
etc.
Des sponsors qu'il choisit.
Oui, il y a pas de hasard. Quand il choisit une marque comme Rolex, par exemple, il prend cette marque parce que cette marque, elle raconte quelque chose, parce qu'elle a une histoire, parce que c'est un patrimoine. Et ça s'inscrit dans une forme de légende. Et lui veut inscrire son parcours à lui dans une forme de légende aussi. Donc tout ça est savamment choisi, calculé. Il n'ira pas faire la pub pour Cochonou, par exemple, parce que ça ne correspond pas à ses valeurs.
Alors que c'est super, Cochonou.
Alors que c'est très bon.
On serait prêts à abandonner les journalistes. Federer, c'est des titres, de l'argent. Est-ce que c'est une entreprise aussi ?
Oui.
Une petite entreprise. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ou avec lui ?
Alors il a ce que j'appelle moi dans le bouquin son gouvernement, Federer. C'est-à-dire qu'il a sa garde rapprochée, évidemment. La vice-présidente ou la coprésidente, c'est Mirka. On en a parlé tout à l'heure, c'est sa femme. Voilà. Et après, il a un groupe de fidèles, dont Pierre Paganini, qui est là depuis 20 ans, qui sont préparateurs physiques, dont Séverin Luthi, etc. Et qui sont ces hommes de confiance. Voilà,
Pierre Paganini, ça pourrait être son Édouard Philippe, son Premier ministre.
Ouais, exactement. Confiance absolue. Alors, Je ne sais pas, parce que ça supposerait que Emmanuel Macron serait un diamant brut et qu'il aurait été poli par Édouard Philippe.
C'est pas exactement
mais
ça.
Mais là, on change, on va dans le grand jury là à ce moment-là.
Ouais. Ça veut dire qu'il faut combien de personnes pour fabriquer un champion? Il est pas bon tout seul, en fait.
Si, il est bon tout seul. Après, le talent du champion, c'est aussi de savoir s'entourer. On ne peut pas être champion tout seul. Il a cette matière, il a cette envie, il a cette hargne, il a cette capacité à ne pas se lasser. Jamais. C'est dur, une vie de tennisman.
C'est quoi la vie d'un tennisman?
C'est beaucoup de voyages, c'est des hôtels, c'est des décalages horaires, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Alors évidemment, à côté de ça, il y a beaucoup d'argent, il y a la gloire, etc. Mmh. Mais c'est pas une vie qui est forcément évidente au quotidien. Et ça, il faut apprendre à le gérer, à le supporter. C'est ce que Santoro ne supportait plus, c'est pour ça qu'il a arrêté. Roger, lui, il a cette capacité à...
Fabrice Santoro, joueur français.
Pardon.
Ouais, je dis ça
et ami de Roger Federer, qui témoigne dans ce livre, on va être complet, dans ce livre formidable qui s'appelle Une aventure de Federer.
C'est chez quel éditeur?
Le Rocher.
Très bien, bon éditeur.
On a tout dit. Et dans ce livre, d'ailleurs, vous racontez aussi ce qui peut être un moteur pour Federer ou pour un champion en général, certaines blessures de l'enfance. Est-ce qu'il était moqué par d'autres jeunes joueurs de tennis au centre national en Suisse?
Il était un peu moqué parce que déjà, il ne parlait pas bien français. Aujourd'hui, il parle 5 langues, mais c'est parce que sa maman lui les a prises, mais elle ne parle pas français, Linette. Donc le français, c'était un peu son point faible. Mmh. Et là, il arrive en Suisse francophone, il a sa voix qui était un peu nasillarde, il a eu un physique d'adolescent, comme ça nous arrive, ou ça nous tous arrivait, qui n'était pas facile.
On chambre son nez aussi
Ouais. Mais il dit, j'ai un gros nez, mais quand je serai numéro 1 mondial, ça se verra plus. C'est étonnant de dire ça quand même.
Et c'est vrai.
Et c'est vrai.
Quelle maturité.
C'est un beau mec, quoi.
Bah, moi, ce que j'ai fait quand j'ai entendu ça, je suis allé voir son nez. Je vais vous dire, j'ai regardé une photo, je dis, bah ouais, c'est vrai.
Il a plutôt un gros nez.
Il est épatant.
Et en tout cas, il a du pif.
Est-ce qu'il peut encore jouer longtemps, Roger Federer? 37 ans, on l'a dit. Enfin, bientôt 37 ans.
Il est en train de jouer à repousser les frontières, les limites du temps. Voilà. Alors après, il a une gestion qui, pour le coup, là, n'est pas du tout artistique, mais scientifique de son corps, de son physique. Il a un physique qui lui permet ça. Il est moins musculeux que Nadal, et donc moins fragile qu'un Nadal, par exemple. Et il a un jeu qui est moins exigeant physiquement, donc qui use moins la machine. Il organise aujourd'hui tout son calendrier en fonction de ses objectifs. Mmh. S'il n'est pas Roland-Garros, c'est pas seulement pour nous faire une peine immense, même si tu nous fais une peine immense, Roger, mais c'est aussi parce qu'à 37 ans, il sait qu'il ne peut pas faire la préparation sur gazon et la préparation sur terre battue. Et il risque d'être rincé sur les deux, de se faire rincer par Nadal à Roland-Garros et d'être épuisé en arrivant à Wimbledon.
Et comme il a plus de chances de gagner Wimbledon, il privilégie le gazon et Wimbledon. Et après, parce qu'on s'en approche de l'après, que fera le génial Federer? On va répondre dans un instant sur RTL. Et puis ensuite, direction Marseille pour soutenir l'OM avant la grande finale. On va se balader dans la ville, raconter aussi l'histoire des plus beaux monuments de la cité phocéenne.
RTL. Depuis la nuit des temps, les hommes essayent de courir plus vite, de sauter plus haut et d'être toujours plus fort.
La curiosité est un vilain défaut.
Rares sont les sports où un seul homme a laissé une empreinte indélébile.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnac.
Le tennis a eu cette chance. Cet homme s'appelle Roger Federer.
Curieux sont sur RTL.
Notre invité, Thomas Soto, est un grand fan de Roger Federer. Il a bondi de joie le jour où les éditions du Rocher lui ont proposé d'écrire un livre sur son héros tennistique. Un héros qui aura, on l'a dit, 37 ans au mois d'août, Thomas Soto. 38 au mois d'août?
Non, le 8 août.
Ah oui, le 8 août, pardon. C'est peut-être mon oreille sourde qui avait entendu.
Il lui a déjà acheté son cadeau, Thomas Soto.
Et il a beau repousser au maximum Federer sa fin de carrière. Elle va bientôt arriver, forcément. Comment voit-il l'après, le dernier jour? Est-ce qu'il en parle, tiens?
Alors moi, il m'en avait parlé quand j'avais rencontré à l'époque pour la radio, et il m'avait dit ce que je voudrais vraiment, c'est que ça soit pas mon genou ou mon dos qui décide. Il voudrait choisir le moment. Après, sur le reste, il en dit rien, parce que je crois qu'il repousse un peu tout ça. Il veut pas y penser. C'est forcément un sujet douloureux pour lui, parce que l'après sera abyssal. Quand on a vécu tout ça, quand on est shooté à l'adrénaline pendant des années, quand on est le roi du monde, il restera charismatique, il restera une personnalité connue bien au-delà du tennis, mais il n'y aura plus cette carotte-là. Donc,
sauf s'il est entraîneur.
Sauf s'il est entraîneur. Mais est-ce que il va aller sur les bords du court? Est-ce que ça va pas? Je ne sais pas.
Les entraîneurs de tennis sont moins médiatisés que les entraîneurs de foot. Ils ont moins d'importance, on va dire.
Exactement.
Comme les politiques à la retraite, les sportifs à la retraite font des conférences dans le monde entier pour raconter leur passion, leur itinéraire.
Je voudrais pas
avec gros chèque à la clé.
Je ne voudrais pas le décourager. Bah, gros chèque, il a ce qu'il faut. Il peut tenir normalement. Mais je ne voudrais pas le décourager. Mais on préférera regarder toujours un de ses anciens matchs que d'écouter en conférence. peut-être, je ne sais pas. Alors, il y a Fabrice Santoro qui a une hypothèse là-dessus, sur la mise en scène de tout ça. Il dit, tout ça a commencé à Bâle, en Suisse, chez lui. Eh ben, il faudrait faire un tournoi à Bâle, mais spécial, en outdoor, donc en extérieur, avec des tribunes, 80 000 places, etc. Et quand j'ai soumis l'idée à Alexandre Bompard, autre grand fan de Roger Federer, il m'a dit, mais moi, de toute façon, la fin, c'est simple, c'est 2 semaines d'antidépresseurs avant et 2 semaines d'antidépresseurs après.
Ah voilà, oui, c'est ça, être fan de Federer.
Ah, c'est un peu ça. Bon,
c'est votre ordonnance aussi.
On vous appellera, absolument. On vous soutiendra, Thomas Soto. Merci beaucoup. Une aventure nommée Federer, c'est aux éditions du Rocher. Bon vent sur France 2.
Et à bientôt.
Et un petit pronostic, tiens, pour le match OM Atlético Madrid ce soir.
Ah, ce soir.
Oui. Bon,
vous j'aime serez beaucoup télé, Antoine j'imagine. Griezmann et j'aime beaucoup l'Olympique de Marseille. Donc peut-être qu'il faudrait un but d'Antoine Griezmann contre son camp. Ça, tout le monde serait content, ça ferait 1-0 pour l'OM. Allez, 1-0 pour l'OM.
On va y croire. Merci beaucoup, Thomas.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.